أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله، سيدنا حبيب الله، سيدنا خير خلق الله، عليه وعلى آله وصحبه وكل من والاه. ما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc nous allons continuer inshallah ta'ala le commentaire qu'on a commencé de celui-même de le commentaire de l'ouvrage de l'imam al-Tahawi rahimahullah ta'ala. Nous sommes arrêtés au passage quand le cheikh l'imam al-Tahawi rahimahullah parlait de Sayyidina Ibrahim al-Khalil et Sayyidina Moussa alayhim wa ala Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam afdalu salati wa azka al-taslim. Comme vous le voyez, l'imam al-Tahawi dans ce traité, il y a une chose dont je voulais attirer votre attention. Il n'a pas parlé de la division du tawhid. Il n'a pas parlé que le tawhid se répartit en trois parties fondamentales dont on essaye de nous casser la tête tous les jours, les salafis, wahhabis, tout le temps. Que le tawhid est réparti en trois parties, il faut que ces trois parties soient reconnues. Il n'y a aucune relation entre tawhid de la seigneurie, tawhid de la divinité, le tawhid des attributs d'Allah. Le tawhid, il est unique, il est un. Cette sorte de trinité au cœur de la croyance musulmane est complètement rejetée par les catécholes. On n'a pas trouvé dans les catécholes quelqu'un qui a inventé cette invention qui était faite au 8e siècle, il faut retenir cela, par Ibn Taymiyyah, rahmallah, qui était une erreur fondamentale, monumentale, à partir de laquelle on exclut une grande partie des musulmans, en reconnaissant qu'ils ont un tiers de tawhid ou deux tiers, il leur manque un tiers. Tout en reconnaissant que les mouchriquins, ils ont un tiers, ou bien ils ont un tiers, ils n'ont pas le deux tiers. Tout ça, c'est une khalota, donc ça ne tient pas la route. Revenons à la parole de l'imam al-Tahawi, rahmallah ta'ala. Il a dit وكلم الله موسى تكليما ايمانا وتصديقا وتسليما. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Sayyidina Moussa ايمانا وتصديقا وتسليما. Nous devons croire catégoriquement à cela. Car le Coran il est clair. Surat An-Nisa verset 164 quand Allah azza wa jal a dit وكلم الله Moussa Takliman. Et Allah Azza wa Jal a parlé à Sayyidina Moussa Takliman, Sirat al-Mutlaq. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal insiste sur cette question-là. Alors, sur cette question, je vais m'attarder un petit peu. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Sayyidina Moussa, alors, dans la croyance sunnite pure, c'est que Allah Azza wa Jal, rien ne lui est semblable. La yushbihu shay'un, wa la yushbihu shay'un Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay', rien ne lui est semblable, ni dans son essence, ni dans ses attributs, ni dans ses actes. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un attribut d'Allah Azza wa Jal, éternel. Il y a ma'na al-qa'im billah Azza wa Jal. C'est une parole éternelle d'Allah Azza wa Jal. Et les attributs d'Allah, comme on voit le détail plus tard, selon le maintenant de l'imam Tahawi, je ne veux pas précipiter, donc j'essaie de commenter la croyance selon la chronologie traitée par l'imam Tahawi. Hein. Donc vous allez voir que l'imam Al-Laqani dans la Jawhara, il n'a pas suivi cette chronologie. Donc chaque savant, il a une chronologie, mais le contenu, il est le même. Donc, mais moi, je vais suivre, selon le livre de l'imam Tahawi, sa chronologie. Donc, il traite ici, dans la question de l'attribut d'Allah Azza wa Jalla, à savoir sa parole, cette parole-là d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'a rien à voir avec la parole des humains. La parole des humains, c'est des lettres, elle a un début, elle a une fin, c'est des ondes, elles doivent être entendues par des oreilles, etc. Ce n'est pas du tout le cas d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'on a dit, rien ne lui est semblable. Laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'u. Il y a une question, c'est que comment Sayyidina Moussa, qui est une créature d'Allah Azza wa Jal, peut entendre la parole d'Allah Azza wa Jal qui est éternelle. Cette question a posé problème pour les Mu'tazilites, qui est, je rappelle, qui est une secte, bien sûr, secte de l'islam, des musulmans, un courant musulman. On va en parler sur cette secte-là, qui a, bien sûr, malgré tous les défauts qu'elle a à travers l'histoire, elle a quand même des qualités. Parmi ces qualités, c'est une secte qui se base beaucoup sur la raison, qui donne la priorité à la raison. Bon, ça, c'est pas une qualité, bien sûr, mais ils ont des qualités. Parmi leurs qualités, ils ont défendu la croyance musulmane vis-à-vis des attaques de la philosophie grecque et romaine de l'époque. On assiste à travers l'histoire avec des grands penseurs, des grands, on va dire, mu'tazilites, des grands qudhat, mufassirin, tels que l'imam Zamakhshari, qui est un grand savant de langue arabe, pas sous-estimé. Mais cela ne les a pas empêchés de déraper, d'avoir un égarement catastrophique. Et pour rappeler, les mu'tazilites aujourd'hui, après avoir été effacés, mais vraiment écrasés et effacés de l'histoire par nos grands ancêtres, commençant par l'imam Abul Hassan al-Sha'ri, qui était mu'tazilite pendant une quarantaine d'années, et qui a beaucoup appris, profité de l'analyse, de la structure, de la façon d'argumenter par la raison. Et il est venu vers les sunnites, une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé vers le chemin des Ahl-Sunnah, après avoir passé 40 ans avec les mu'tazilites, il est revenu vers les sunnites, et il a utilisé la raison au profit du texte, et non le contraire, parce que chez les mu'tazilites, on donne la priorité à la raison et le texte vient en deuxième degré. Chez les sunnites, c'est le texte, c'est le Coran et la Sunna qui vient en premier degré et la raison, elle vient confirmer ce que le texte a dit. Donc, les mu'tazilites, par les coups, on va dire, forts de la réfutation de l'imam Ash'ari, ses élèves, les élèves des élèves, les élèves des élèves des élèves, l'imam Baqlani, Ibn Fawrak, Al-Ghazali, Baqlani, toute cette génération ont complètement effacé de l'histoire les Mu'tazilites. Quand par hasard nous assistons aujourd'hui que cette secte elle revient du côté de Jordanie, d'Indonésie, j'ai rencontré même un de ces gens-là, bizarrement, les Mu'tazilites reviennent avec une croyance Mu'tazilite. Voilà. Et leur logique aujourd'hui, c'est que puisque le monde musulman c'est un monde sous-développé, et pour qu'ils sortent du sous-développement, il lui faut la raison, il faut une argumentation, il faut qu'ils fassent bouger, fonctionner le aql, la raison. Et pour faire fonctionner le aql, il n'y a pas mieux de se référer à un groupe, savoir les Mu'tazilites, pour profiter de leur expérience afin de donner une force à la pensée musulmane pour sortir du sous-développement. Le problème, c'est que si c'était donner une force à la réflexion de la pensée musulmane dans le domaine économique, stratégique, technologique, c'est bien. Le problème, c'est qu'ils veulent parler que du côté croyance. On n'a pas assisté jusqu'à présent, le nouveau Mu'tazil parlait de l'économie et de la technologie, etc. Le monde musulman n'est pas sous-développé dans la croyance, il est sous-développé dans les questions d'économie, etc. Donc je ferme la parenthèse. Cette secte croit que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est créée. Donc Allah azzawajal, sa parole, il l'a créée pour, elle est créée, puisqu'elle est créée, donc elle est entendue par Sidna Moussa, puisque Sidna Moussa c'est une créature, et la créature ne peut entendre quelque chose d'éternel, puisque la parole d'Allah, elle est éternelle. Donc pour eux, elle ne peut pas être éternelle, puisqu'elle est écoutée par une créature, à savoir Sidna Moussa. Ça, c'est une erreur monumentale. Et on va remarquer que la secte wahhabite, elle a une grande ressemblance avec cette secte mu'tazilite, car ils ont la même croyance sur cette question de la parole. Bien sûr, ils disent, les salafis, entre guillemets, hein, les wahhabites d'aujourd'hui, disent que la parole d'Allah, le Coran, est éternelle, mais il y a des passages où on peut avoir des passages qui sont hadith, c'est-à-dire ils sont pas éternels, ils sont créés. Et j'ai eu un débat avec un des grands, on va dire, représentants de ce mouvement, à savoir Dimashqiya, où il confirme cela, il défend, d'ailleurs c'est la même croyance chez eux tous, depuis Ibn Taymiyyah, que le fait que la parole d'Allah Azzawajal, la Sidna Moussa, cette parole-là, elle est créée. Ils défendent cette croyance, donc c'est une croyance mu'tazilite. Donc les salafis, sur la question de la parole d'Allah Azzawajal, ils sont mu'tazilites et ils ressemblent au mu'tazila dans pas mal de points de croyance, ils se disent, nous sommes des gens du Kitab ou Sunna, c'est complètement faux. Au moins, les Mu'tazilis, ce sont des gens de science, vraiment. Mais les salafis aujourd'hui, c'est eux et la science, ça fait deux. Donc, surtout sur la question de la Sunna, on prétend être des défenseurs du hadith, des rapporteurs du hadith. Ils sont loin de la Sunna, très loin des années de lumière. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Sayyidina Moussa, alayhi salam, Ahl al-Sunna disent, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis aux croyants qu'ils verront Allah azzawajal quand ils seront au paradis. Donc les croyants verront Allah azzawajal quand ils seront. Alors, sans comment, on sait très très bien que tout ce qui concerne Allah azzawajal, il n'a pas de comment. Contrairement à ceux qui veulent lui coller le comment. Ils disent non, Allah azzawajal, juste on ignore le comment. Et je vous ai rapporté la dernière fois les différentes versions quand on parle du trône. Allah Azzawajal, comme a dit le Coran al-Karim, Ar-Rahman Ar-Istiwa. Donc la question de l'istiwa, on nous rapporte la parole de l'imam Malik, l'istiwa au ma'loum, l'istiwa, l'établissement est connu, ou le kayf au majhoul, c'est-à-dire le kayf, le comment, juste il est ignoré, juste on ne le connaît pas, mais il existe. On a prouvé la dernière fois, et le défi reste posé, que cette parole n'a aucune chaîne de transmission, ça n'existe pas. Il n'y a même pas une chaîne de transmission faible. Et je vous ai donné les chaînes de transmission solides qui opposent cette parole-là et qui prouvent qu'Allah Azzawajal n'a pas de comment. Le comment concerne la créature et pas le créateur. Donc les musulmans verront Allah Azzawajal, le jugement dernier, le verront au paradis sans comment. Puisque des créatures, les humains, verront, vont voir le créateur, l'éternel, sans comment, ça c'est une preuve qu'ils peuvent l'entendre, puisqu'ils peuvent le voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, ils le verront. Il n'y a pas de comment. C'est Allah azzawajal qui nous a dit ça, on croit à cela. Alors, Sayyidina Moussa a entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a levé le voile. Écoutez très bien. Allah, il a levé le voile qui empêchait une créature comme Sayyidina Moussa d'entendre la parole éternelle. Il lui a permis à un moment d'entendre cette parole éternelle, il lui a permis d'entendre ce que Allah Azzawajal a voulu lui faire entendre. Pendant un moment, ensuite, il lui a remis le voile pour qu'il n'entende pas la parole d'Allah Azzawajal. Cette parole d'Allah Azzawajal, elle n'a pas de début et fin, c'est-à-dire, elle n'est pas, c'est un attribut d'Allah qui ne dépend pas du temps ni de l'espace, puisque c'est un attribut d'Allah. Le temps et l'espace, ce sont des créatures. L'attribut d'Allah ne dépend ni de temps ni d'espace. À partir de là, on sait très bien qu'Allah Azzawajal n'est pas dans un endroit. Il n'est ni dans le ciel, ni au-dessus du ciel, ni assis sur le trône, ni il descend. C'est quoi ça? Il faut prendre ces versets, ces hadiths, au sens métaphorique. Quand Allah Azzawajal, on entend dans le hadith, Yanzilu Rabbuna, Allah descend dans le dernier tiers de la nuit, c'est sa rahma, c'est son ordre. Comme l'a dit l'imam Malik, rapporté par l'imam Ibn Abdilbar dans son ouvrage At-Tamhid, et rapporté dans la Hila et d'autres ouvrages. Et quand on dit Ar-Rahman Ar-Shistawa, c'est que Allah Azzawajal domine le trône. C'est pas qu'il est assis sur le trône. Il n'a pas besoin de s'asseoir. C'est le trône qui a besoin d'Allah et non pas le contraire. Donc, cette question de la parole d'Allah Azzawajal qui est éternelle, nous devons rappeler une histoire qui s'est passée avec l'imam Ahmad Rahimahullah Ta'ala. À son époque, les Mu'tazilites, ils étaient au pouvoir. Ils avaient, rappelons-le, que toutes les sectes musulmanes, majoritairement, elles ont commencé comme des sectes politiques et elles ont fini par des sectes dogmatiques, c'est-à-dire elles ont adapté des croyances. Sauf les Mu'tazilites, ils ont commencé en tant que secte de croyances et elles ont fini en tant que secte politique. En quoi les musulmans tous, ils finissent par, soit ils goûtent au début à la politique, ou bien ils finissent dans la politique, dans les relations entre la croyance et la politique. Les chiites, ils ont commencé comme une secte politique, et ensuite ils ont adapté une croyance. Par contre, les Mu'tazilites, ils ont, à l'époque de l'imam Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, qui était. Le Hassan al-Basri, c'était un élève de Sayyidina Ali, radiallahu ta'ala anhu wa karam Allah wajha. Al-Hassan al-Basri, c'était un élève de Sidna Ali, il avait des élèves. Il avait des élèves, et parmi ces élèves-là, il y avait un élève qui s'appelle Wasil ibn Atta. Ça lui a pas plu la façon d'argumenter de l'imam al-Hali, qui est un des gens du salaf. Imam al-Hassan al-Basri, qui était quelqu'un du salaf, il avait parmi ses élèves Wasil ibn Atta. Wasil ibn Atta, il n'a pas apprécié la façon dont enseignait l'imam al-Hassan al-Basri, c'était de la façon du salaf, puisque la foi, elle était là, la langue arabe, elle était là, ils étaient proches des sahabats, c'est-à-dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc ils n'ont pas besoin d'avoir un ta'wil détaillé, ils comprenaient c'est-à-dire les textes coraniques, sans avoir recours au ta'wil, à l'interprétation en détail, bien que on a eu chez les salafs, on a reconnu chez les salafs le ta'wil, c'est-à-dire l'interprétation en détail des versets ambigus de temps en temps, mais ce n'était pas leur méthodologie. Et on verra cela, Inch'Allah, plus tard, que c'est la méthodologie des khalafs pour préserver la foi et la croyance de l'ensemble des musulmans. Alors, Wasil ibn Atta, il s'est marginalisé, il a créé un petit groupe, il a dit, moi ça ne me plaît pas la façon de l'imam Hassan al-Basri, où il répond à toutes les questions par Al-Kitab ou Sunnah. Il a dit, il faut répondre par la logique, par la raison, ensuite on va voir la position, on va voir comment on peut interpréter Kitab ou Sunnah à la logique. Donc il donne la priorité à la logique. Et quand il a fait cela, il s'est mis dans un coin, I'tazala, dans un petit coin, d'où l'imam Hassan al-Basri a dit, I'tazalana Wasil. Donc Wasil, regardez la sagesse de ce grand imam Al-Hassan al-Basri. Il n'a pas dit, oh regardez Wasil, c'est quelqu'un de pas bien, c'était mon élève, il va maintenant prendre un petit groupe. Non, regardez comment ils avaient un esprit très large, il avait de la rahma, ils avaient de la sagesse. Il a dit juste, i'tazalana Wasil, c'est-à-dire Wasil, il s'est marginalisé. Et d'où est venue la secte Mu'tazilite, donc qui a démarré avec Wasil ibn Atta. Et quand même, quelques ulama les ont déclarés mécréants, mais pas toute la totalité, la majorité des savants, malgré tout leur égarement, les ont considérés comme une secte égarée, mais pas des koufars. Bien qu'ils parlent de la parole d'Allah Azza wa Jal, ils la rendent créée. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, comme nous l'a rapporté beaucoup de savants, d'ailleurs l'imam al-Khatib al-Baghdadi et beaucoup d'autres, rapporte une histoire qui s'est passée entre l'imam Shafi'i et l'imam Ahmad ibn Hanbal. Cette histoire, elle est rapportée avec des chaînes de transmission. Que l'imam Shafi'i a vu dans le rêve Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui disant, comme il y avait une mahabba, une fraternité, il se voyait tout le temps l'imam Shafi'i et l'imam Ahmad, lui a dit, Shafi'i, tu vas voir l'imam Ahmad, ou bien tu lui envoies quelqu'un, et tu lui dis qu'il va avoir une grande épreuve. Dans quelques versions, il a même dit l'épreuve concerne la parole d'Allah Azza wa Jal. Dis-lui, قُلْ لَهُ يَثْبُتْ, c'est-à-dire dis-lui de se maintenir, de résister, de ne pas céder à au Mu'tazilite, de rester sur la voie de Ahl Sunnah et de dire que la parole d'Allah Azza wa Jal est éternelle, n'est pas créée. Alors, l'imam Shafi'i envoie un de ses meilleurs élèves, l'imam Ahmad. Il lui dit, voilà, l'imam Shafi'i te donne ce livre-là, c'est-à-dire lui a envoyé Kitab, une lettre. Et dans la lettre, c'est écrit le rêve que l'imam Shafi'i avait fait sur le Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand l'imam Ahmad a lu cela, il a pleuré et il a remercié celui qui est venu. Celui qui est venu lui a dit Al-Bishara, c'est-à-dire est-il une récompense pour ce que je t'ai ramené comme information. La récompense, il n'attend pas d'argent, mais il sait que l'imam Ahmad va lui donner quelque chose qui lui appartient. Alors, avoir un crayon ou une plume ou une feuille de l'imam Ahmad, c'est pas rien du tout. L'imam Ahmad enlève son qamis et lui donne cet élève de l'imam Shafi'i. Quand l'élève revient à l'imam Shafi'i lui dit, est-ce que l'imam Ahmad t'a donné quelque chose? Il a dit oui, il m'a donné son qamis, mais je ne peux pas te le donner. Il lui a dit d'accord, tu ne me le donnes pas, mais tu me le prêtes, ne serait-ce une nuit. Il le lui a prêté, il l'a lavé avec de l'eau, avec cette eau, il s'est douché, il l'a bu. L'imam Shafi'i, il fait tabarruk avec le qamis de l'imam Ahmad. Il l'a lavé, il a bu son eau, et il s'est douché avec. L'imam Shafi'i, wa ma adrak, il fait le tabarruk avec le qamis de l'imam Ahmad. Ça, c'est une réponse à ceux qui disent non, le tabarruk, c'est du shirk, attention, machin, bah. Le tabarruk, c'est du shirk. Donc, il faut déjà voir comment Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Sidna Yusuf de jeter son qamis sur le visage de son père pour qu'il retrouve la vue. On ferme cette parenthèse. L'imam Ahmad rahimahullah, effectivement, il a été convoqué par les autorités. On rapporte que c'était le Ma'moun qui lui a dit. Ils ont fait plusieurs débats. Donc, ils ont convoqué donc le pouvoir de l'époque, le calife de l'époque, qui était les Mu'tazilites. Ils ont pris le pouvoir, c'est-à-dire ils sont devenus une secte qui a le pouvoir. Elle a le savoir et le pouvoir. Donc, ils se sont accaparés du pouvoir. La police, c'est-à-dire les tribunaux, les juges sont devenus des mu'tazilites. Donc ils ont convoqué la majorité des ulama de l'époque. Ils ont torturé des ulama de l'époque. Vraiment, c'est une grande fitna, c'est une grande épreuve à la sunna à l'époque. Ils ont été torturés pour les remettre, pour les convaincre. Hein, c'est-à-dire, comme ils n'ont pas pu les convaincre scientifiquement dans des grands débats. Et ils ont essayé de les torturer pour, c'est-à-dire pour croire à la croyance mu'tazilite, qu'en quoi la parole d'Allah allait créer. Il y en a parmi les ulama qui sont morts sur la torture. Et l'imam Ahmed, il a failli mourir sous la torture. Il a été torturé à mort. Parce que dans tous les débats qu'il a eu avec les grands chiurs des mu'tazilites, il a pris le dessus. Rahimahullah ta'ala. Et quand ils n'ont pas pu, il était enchaîné pendant des mois, il prenait les chaînes avec ses mains pour marcher, tellement c'était lourd, il était tout maigre. Hein. Et il a résisté à cela, il n'a jamais cru que, ni dit que la parole d'Allah Azza wa Jalla. Regardez, hein, les preuves que l'imam Ahmad, les grands imams, ont subi juste pour nous garder cette croyance pure, saine. Et qu'aujourd'hui, des gens qui ne connaissent pas la valeur des attributs d'Allah Azza wa Jalla, ni la valeur de ce que nos ulama, nos imams, ont été éprouvés et disent que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala elle n'est pas éternelle. C'est-à-dire, je parle des wahhabis, des salafis qui eux disent aujourd'hui que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Sidna Moussa elle est créée. Et ça c'est contraire à la croyance sunnite. Donc l'imam Ahmad rahimahullah a résisté à cette grande épreuve et jusqu'à aujourd'hui la croyance sunnite est que la parole d'Allah azza wa jalla elle est éternelle, elle n'a ni début ni fin. C'est les attributs d'Allah, hein. Ils n'ont pas de début. Les attributs d'Allah, ils ne sont ni l'essence, ni en dehors de l'essence. D'accord ? C'est des sens qui sont mutaalliq, reliés à l'essence d'Allah Azza wa Jalla. D'accord ? Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, قال الشيخ رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي رحمه الله وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. Donc cela prouve que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est éternelle et que même si on trouve dans le Coran al-Karim qu'Allah azza wa jal a cité des noms de personnes qu'Allah azza wa jal a cité قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها واشتكي إلى الله, c'est-à-dire Allah azza wa jal a entendu la parole de celle, tout cela Allah azza wa jal le sait éternellement, ça n'a rien à voir. Quand Allah azza wa jal parle de muhdath, le muhdath, le mot muhdath qui veut dire nouveau, c'est-à-dire apparent, c'est sa descente, c'est le Coran al-Karim, quand il descend, c'est sa descente qui est nouvelle. Or, la parole d'Allah Azza wa Jal en elle-même, elle est éternelle. Donc, le Coran al-Karim, Kalamullah Azza wa Jal, Qadim, le Coran qui commence par Sourate al-Fatiha, qui termine par Sourate al-Nas, toute cette parole d'Allah Azza wa Jal, et toutes les paroles d'Allah Azza wa Jal, elles sont éternelles car ce sont des attributs, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك après cela. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. الشيخ الطحاوي رحمه الله dit ونؤمن بالملائكة, et nous croyons aux anges, والنبيين, et nous croyons aux prophètes, والكتب المنزلة, et aux livres qui ont été révélés, qui ont été révélés, qui sont descendus sur les prophètes. Et nous attestons, nous croyons qu'ils étaient sur le haqq, c'est-à-dire sur la vérité absolue, claire, nette et précise. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, tout le Coran parle, surtout le Coran qui a été révélé à l'époque mécoise, il traite tous les sujets de foi et de croyance. Surat al-Baqarah, verset 285, آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا إلى غير ذلك. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran Karim de la foi, de la vraie foi. Nous ne pouvons être croyants si on ne croit pas aux anges, si on ne croit pas aux prophètes, si on ne croit pas aux livres qui ont été révélés, etc. Alors, nous traiterons plus tard la question des anges et des prophètes et des livres, etc. Mais juste à titre d'information, quelle est la différence entre un prophète et un messager? Tout messager est un prophète et pas tous les prophètes qui sont des messagers. Pour le nombre des prophètes, Adadul Anbiya, comme est rapporté dans quelques hadiths, 124 000 prophètes. 124 000 prophètes. Et le Coran al-Karim nous parle de 25 messagers, hein, d'accord, dont on est dans l'obligation de croire à ces messagers-là. Et le nombre des messagers, ça varie entre les ulama, 315, il y en a ceux qui disent 314, il y en a même ceux qui disent 313. Donc les messagers, ils ont une, on va dire, un livre, ou bien des textes, ou bien ils ont une jurisprudence. Donc ils viennent avec un livre pour transmettre une jurisprudence. Tous les prophètes qu'Allah Azza wa Jal a envoyés, tous les prophètes, le rôle était de rétablir la pureté de la croyance et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala chez les humains. À chaque fois que l'humanité dérape, Allah Azza wa Jal leur envoie des prophètes pour le remettre sur le droit chemin. À chaque fois que l'humain crée des créatures, invente des créatures, des statues, des djinns, des créatures. L'humain invente des créatures. Vous allez en Inde, ils ont plus de 1000 dieux. Hein. Même chez les chrétiens, chacun a une croyance spécifique. Comme dit le Cheikh Ahmed Didat, rahimahullah ta'ala. On a dit, j'ai discuté avec des milliers de chrétiens. Je n'ai pas trouvé de chrétiens qui ont la même croyance. Chacun finit par donner une croyance spécifique à lui. Et ça, on le voit aussi, même chez nos frères salafis. Quand on parle de croyance avec eux, quand le débat est avancé un peu plus profond, chacun commence à nous donner des idées. Et on constate qu'ils ne sont pas les mêmes qu'on trouve chez les autres. Vous allez le trouver même des contradictions de croyance entre Cheikh Ibn al-Uthaymeen, Cheikh al-Albani ou bien Cheikh Ibn Baz, etc. Dans des choses qui, ou bien même avec Ibn al-Taymiyyah, rappelons-là que l'Albani n'est pas d'accord. D'accord. Par contre, dans l'école sunnite, la croyance, elle est une globale. Et on n'a pas le droit de diverger dans les questions de croyance. Nous divergeons dans les questions de jurisprudence, et ça c'est une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans la croyance, on n'a pas le droit. Sauf dans la façon de comprendre, ou la façon d'argumenter. Donc le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque prophète doit assister, c'est-à-dire reconnaître le message d'un messager qui est à son époque, ou bien qui est avant lui. Il doit le soutenir, hein. Et le prophète, il peut avoir, c'est-à-dire la législation, elle peut diverger, elle peut être différente d'un messager à un autre. La jurisprudence, ce qui était interdit chez une communauté, peut ne pas l'être, ou bien la façon de prier sur une communauté peut ne pas l'être la même chez une autre. Mais la croyance, elle est unique, elle est une. Donc, Nabi alayhi salam, khatimul anbiya wal mursalin, c'est-à-dire l'ultime, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal a créé Sina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et les anges avaient vu, c'est écrit sur le trône, Sina Adam il l'a vu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et celui l'ultime des prophètes, tout a commencé par lui, finit par lui, hein. C'est comme si vous avez un point, un cercle, ça commence par le point, et si tu fais le tour, tu reviens au point, hein, pour ne pas dire le dernier des prophètes, le mot dernier, ça se dit pas, hein, avec respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ultime. Donc Sina Rasulullah, la sharia musulmane, Nasikhatun, elle abroge toutes les jurisprudences qui l'ont précédé, car le livre saint, le Coran al-Karim, c'est Allah Azza wa Jal qui le protège. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal, c'est porté garant, c'est lui qui protège le Coran al-Karim jusqu'à la fin des temps. Donc, la jurisprudence de l'islam, de la sharia muhammadiyya, donc elle reste, c'est elle qui va, après que, c'est-à-dire l'apparition. Après que le prophète a reçu la révélation, donc c'est cette jurisprudence qui va rester éternellement jusqu'à la fin des temps. Thumma qala al-shaykhu rahimahullah ta'ala wa nusammi ahla qiblatina muslimina mu'minin. Donc il dit, nous donnons le nom des gens de la Qibla, nous sommes Ahla Qiblatina, muslimin et mu'minin. Donc tous ceux qui prient en direction de la Qibla, c'est des muslimin et mu'minin, c'est des croyants. Maintenant, est-ce que, comment, il traitera plus tard, Cheikh, est-ce que on peut dire de tel, il est mécréant, il sort de l'islam? C'est pas une chose facile de faire sortir de l'islam. Aujourd'hui, nous assistons à des gens comme si ils jouent le rôle de la police de l'enfer et du paradis. Ils font entrer des gens en enfer, ils font entrer des gens au paradis, comme s'ils ont acquis leur place au paradis. Ils disent sur tel, il fait tawassul mushrik, ils le sortent de l'islam, ou tel, il fait tabarrok mushrik. Et ça, c'est une catastrophe dont on n'a pas assisté pendant tous ces siècles qui nous ont précédés à des ulama traitant de mushrik, celui qui fait tawassul ou bien tabarrok, il a les chiites, c'est-à-dire avec leur égarement, leur grave dérapage. On n'a pas le droit. Sauf si un musulman, qu'il soit chiite ou autre, nie quelque chose de fondamental dans notre croyance et qui est reconnu par consensus. D'accord ? C'est-à-dire, il va dire par exemple que le Coran al-Karim, il manque des versets, ou bien il va nous inventer le Mushaf de Fatima, ou bien Surat al-Wilaya, un surat où c'est cité Sidna Ali, par exemple. Ça, c'est kuffar, ça, c'est des mécréants sans exception. Il n'y a pas de. C'est indiscutable. Salamat al-Qur'an min al-ziyadati wal-nuqsan. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui manque au Coran al-Karim. Il nous a été rapporté par des chaînes de transmission, on va dire, authentiques, et rapporté par un nombre important des Sahaba, aux élèves des Sahaba, aux élèves des élèves jusqu'à aujourd'hui. Donc, le Coran al-Karim, comme la science d'ailleurs, comme la jurisprudence, comme le hadith, et même cette jurisprudence, elle a été rapportée d'une génération à une génération, d'où même la croyance à ceux qui veulent aujourd'hui, soi-disant, nous apprendre la croyance que toute cette Ummah, elle est dans l'égarement, tous ces gens-là, ces soufis de salafis qui est dans le droit chemin, ils veulent nous faire croire que toute la Ummah du Maroc jusqu'en Inde, et depuis 15 siècles, ils sont dans l'égarement, juste ceux qui ont suivi une poignée de salafis, soi-disant, ils suivent les salafis, ils sont très loin des années de lumière des salafs, que ce soit dans leur croyance, que ce soit dans leur foi, que ce soit dans leur compréhension des textes, que ce soit dans leur piété, etc. etc. Donc, l'imam Ibn Taymiyyah, rahmallah, avant sa mort, il est connu qu'il est revenu, il a dit que j'atteste que je ne fais takfir à d'aucune personne qui se dirige, qui prie vers la Qibla. Et c'est la même position de l'imam Abu al-Hassan Sha'ari, rahmallahu ta'ala. Thumma qala al-shaykh wa rahmallahu ta'ala, imam al-Tahawi, ma damu bima ja'a bihi al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam mu'tarifin. Tant que ces gens-là qui prient en direction de la Qibla, tant qu'ils croient à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il nous dit, ils reconnaissent tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. وله بكل ما قاله واخبر مصدقين غير منكرين. Tant qu'il croit vraiment à ce que tout ce qu'il ne renie pas, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a rapporté, surtout en ce qui concerne le monde de l'au-delà, Jannah, Wannar, Sirat, Mizan, Al-Qiyama, la résurrection, tout cela, c'est des détails de croyance dont nous croyons tout ce qui a été rapporté par le Coran al-Karim, les hadiths authentiques, tout, le croyant doit croire à cela. Et surtout à Allah Azza wa Jalla, ses attributs, aux prophètes, aux anges, jugement dernier, le hisab, l'iqab, tout cela, le croyant doit croire à cela. Sinon, il sortira de l'islam. Thumma qala l'imam al-Tahawi, rahmahullah ta'ala, wa la nakhudu fi Allah, wa la numari fi dinillah. Wa la nakhudu fi Allah. Là, il a commencé, l'imam al-Tahawi, à rentrer dans les détails de la croyance. Wa la nakhudu bi Allah, bima'na wa la. C'est qu'avec nos frères aujourd'hui, que ce soit des salafis ou autres, il y a une grande incompréhension dans la maîtrise de la langue arabe. Si on commence à comprendre la langue arabe, on n'aura pas de divergence. On comprendra, c'est-à-dire il n'y aura pas de divergence dans les textes. Quand on diverge sur la compréhension d'un texte, on se réfère au mufassirin. On va voir ce qu'a dit l'imam Ibn al-Arabi, ou bien l'imam al-Qurtubi, ou bien l'imam Ibn Kathir. Pourquoi on ne se réfère pas à ces grands savants, à ces grands mufassirins, ou bien dans le hadith aussi, ce que dit l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, ou ce que dit l'imam al-Nawawi, ce que dit l'imam al-Subki, ce que dit l'imam al-Suyuti, et la ghairi dhalika. Malheureusement, aujourd'hui, on ne se réfère pas à ces grandes références, on nous invente des petits chouyouks à gauche, à droite, bricolage, comme leur habitude. قال الشيخ رحمه الله ولا نخوض في الله ولا نمارى في دين الله. C'est-à-dire, il est interdit de penser à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit Sayyidina Abu Bakr Siddiq, العجز عن الإدراك إدراك والبحث في ذات الله إشراك. Le fait que tu n'arrives pas à assimiler, à comprendre ce que est l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est la pure foi, parce que Allah azawajal nous a pas incité, nous a pas recommandé, nous a pas dit de penser, de réfléchir sur son essence, mais sur ses attributs. L'essentiel, c'est de croire qu'Allah azawajal il a une essence qui ne ressemble pas à ses créatures. C'est-à-dire, كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. Tout ce que tu penses, c'est pas comme ça. Comme a dit Sidna Ali ibn Abi Talib. Tout ce que tu penses, c'est pas comme ça. Donc c'est pas la peine de penser à l'essence. Par contre, il faut méditer, il faut penser, réfléchir, il faut apprendre les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont été révélés au Coran al-Karim et à travers la sunna authentique Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et que les ulama nous expliquent. C'est pas à nous d'aller chercher ces attributs-là au Coran ni dans les hadiths. C'est les ulama qui nous expliquent c'est quoi un attribut et où, dans quel verset et pourquoi les attributs d'Allah azza wa jalla, les acharites, les ont recensés à 13 attributs. Pourquoi tous les autres attributs et le nom d'Allah sont dans un seul attribut ou trois, etc. Pas autrement. Donc, tout ça, c'est une discipline qui s'appelle ilm al-tawhid, ilm usuluddin, ou comme dit Abu Hanifa rahimahullah, fiqhul akbar. Donc, les ulama nous expliquent c'est quoi les attributs, qu'est-ce que nous devons attribuer à Allah, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'attribuer, qu'est-ce que nous devons attribuer au prophète, etc. etc. Voilà, nous mari fi dinillah. C'est-à-dire, on ne rajoute pas, on ne diminue pas autre chose que ce que Allah azza wa jalla. Le verset de Sourate Shura, verset 11, laisse comme il est, rien ne lui ressemble. Est clair et précis sur cette question-là. طيب. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا نجادل في القرآن. Et nous ne polémiquons pas dans le Coran. C'est-à-dire, il va expliquer cette question, nous ne polémiquons pas. Il revient à la question que j'ai parlé tout à l'heure de l'imam de Sayyiduna Moussa alayhi salam. Parce qu'il a demandé à Allah Azza wa Jal, il a demandé, c'est-à-dire qu'il voulait voir Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il lui a dit, tu ne pourras pas me voir. Alors, la question qui se pose, est-ce que le fait que Sidna Moussa a demandé à Allah Azza wa Jal de le voir est une question de l'impossible? Et nous savons que les prophètes, ils sont venus pour apprendre aux gens la croyance. Si c'était une chose impossible, Sidna Moussa ne l'aurait jamais demandé. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرج به le jour où l'ascension il a vu Allah subhanahu wa ta'ala quelques spécialistes de la croyance disent 6 fois ou bien plus que cela. Et pourquoi les uns disent ah tiens puisqu'il est monté au 7e ciel, c'est une preuve qu'Allah azza wa jalla il est en haut, donc sidna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il l'a vu. Ah là c'est une grave erreur. Imam al-Bayhaqi nous dit dans un hadith quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit je ne suis pas proche d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de l'ascension que Sayyidina Younes. La tufadhiluni ala Younes ibn Matta wa ana fi sidrati al-muntaha. Ne croyez pas que je suis meilleur, je suis plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala quand je suis au 7e ciel que Younes ibn Matta, sinna Younes qui était dans le ventre de la baleine, était dans le fond de l'océan. De la mer. Donc il dit sur ce hadith-là, ça c'est une preuve qu'Allah Azza wa Jalla n'est pas dans un endroit. Et que si Rasul sallallahu alayhi wa sallam est monté au 7e ciel, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a voulu c'est-à-dire c'est monté, c'est-à-dire lui sharifu, c'est pour l'honorer, il l'a honoré pour qu'il va être dans un endroit, c'est le Muntaha, hein, le lotus de la limite, hein, comme on le traduit, pour qu'il soit dans un endroit où personne, même Sidna Jibril, arrivé à cet endroit-là, il a dit « Ya Rasulallah, si j'avance d'un pas, je brûlerai, mais toi, Ya Rasulallah, tu peux avancer. » Donc c'est un endroit juste pour honorer Sidna Rasulallah, et quel honneur, et quel honneur. C'est pas pour que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il ait un rendez-vous, et voir Allah Azza wa Jal comme s'il voit un corps. A'oudou billah, c'est pas cela. Et si c'était le cas, pourquoi Sidna Moussa, alors, il a demandé de voir Allah Azza wa Jal, il était sur terre. Et les musulmans verront Allah Azza wa Jal quand ils seront au paradis, mais sans comment, comme on l'a dit. Donc cette question du fait que Allah Azza wa Jal n'a pas d'endroit est une question fondamentale dans la croyance musulmane, et qu'Allah Azza wa Jal, il est comme il était avant de créer toute l'humanité, toutes les créatures, les djinns, les anges, etc., comme le rapporte l'imam Bukhari, كان الله ولا شيء معه. Donc il y avait Allah, il n'y avait rien avec lui, et il ne subit pas le changement c'est sur ses créatures et pas sur lui. وقال الشيخ رحمه الله ولا نجادل في القرآن, nous ne polémiquons pas sur le Coran. ونشهد أنه كلام رب العالمين, et nous croyons, nous attestons qu'il est, regardez bien, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين, c'est Sidna Jibril qui a rapporté cette parole. روح الأمين سيدنا جبريل. فعلمه سيد المرسلين, il l'a appris à سيدنا موسى, à سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, محمدا صلى الله عليه وسلم. Donc سيدنا جبريل, il l'a appris, c'est lui qui a porté la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à سيدنا رسول الله, il lui a appris. علمه شديد القوى, comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن الكريم, il nous le dit sourate النحل, قل نزله روح القدس, il nous dit aussi نزل به الروح الشعراء, verset 193. Alors, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend que celui qui a appris au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Sidna Jibril. Allah azza wa jalla parle de lui qu'il est fort, allama wa shadidul quwa, c'est-à-dire cette créature forte. Et quand Allah azza wa jalla parle d'une chose qu'elle est forte, c'est que vraiment elle est forte, parce que c'est Allah qui parle de cette chose-là. Alors regardez, Allah azza wa jalla, est-ce qu'il était incapable de transmettre le savoir, de transmettre le Coran al-Karim directement à Sidna Rasulullah, pour qu'il passe par Sidna Jibril? Hacha. Allah Azza wa Jalla, inna Allah ala kul shay qadir. Allah peut tout faire, mais pour nous apprendre. Il nous apprend ala anna al-ilm bit-ta'allum, que la science, c'est par l'apprentissage, c'est par le savoir. C'est que tu faut que tu ailles vers un shaykh apprendre. L'insan, il s'est mit-ta'allum. Bien sûr. Apprendre des livres, apprendre des CD, des sites internet, c'est-à-dire d'avoir des CD, etc. Ça enrichit le savoir. Mais le savoir fondamental, il faut l'apprendre d'un cheikh. Si tu n'apprends pas directement de la bouche d'un cheikh qui doit t'apprendre les choses fondamentales, il faut que tu sois avec lui, comme a fait Sidna Jibril. Il est venu voir Sidna Rasulullah entouré de ses compagnons dans le célèbre hadith Sahih Muslim, le célèbre hadith de Jibril, où Sidna Omar al-Khattab qui nous rapporte, il nous dit, nous étions assis avec Sidna Rasulullah. Il qadima alayna rajulun shadidu bayad al-thiyab shadidu sawad al-sha'ri, c'est-à-dire un homme est venu vers nous, et jusqu'à ce qu'il s'est assis devant Sidna Rasulullah, il a mis ses genoux devant les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et personne ne le connaît parmi nous. Il était habillé tout en blanc propre, et ses cheveux étaient tout noirs, il n'avait pas sur lui de la poussière, des traces de voyageurs, et personne ne le connaît parmi nous, parce que les gens de Médine se connaissent tous entre eux. Il y avait 1500 à peu près sahabis, tous ils se connaissent. Donc c'est qui ce personnage qui pose des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et à chaque fois que Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui répond, il lui dit sadaqt, c'est-à-dire quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond aux questions de Sidna Jibril, il lui dit sadaqt, c'est-à-dire tu as raison. C'est une preuve qu'il connaissait la réponse. Alors, à la fin, après trois jours, Sidna Rasulullah, il a rencontré Sidna Abdul Khattab, il lui a dit atadri man sa'il ya Omar, sais-tu qui est celui qui est venu poser tes questions? Il a dit Allah wa Rasulu A'lam. Sidna Omar, il a dit Allah et son prophète seuls savent qui est venu poser des questions. Il a dit Innahu Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. C'est l'ange Gabriel qui est venu vous apprendre les fondements de votre religion. Alors, il est venu leur apprendre que l'islam est basé sur trois grandes dimensions, à savoir la jurisprudence, la croyance et la spiritualité, qu'on peut appeler tasawwuf ou bien l'akhlaq ou bien l'éducation. C'est-à-dire trois grands pôles. La jurisprudence, أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الإحسان. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a posé Sidna Jibril trois grandes questions. Il lui a montré قال والدين ذي الثلاث كما قال ابن عاشر رحمه الله والدين ذي الثلاث خذ أقوى عراك. Donc la religion, c'est jurisprudence, croyance et spiritualité. Malheureusement aujourd'hui, les gens parlent de jurisprudence, ils essayent avec tous leurs courants, les mouvements salafis, tout ce que vous voulez, maliki, halafi, ils parlent de croyance. Chacun selon ce qu'il croit et le défend. Mais rarement qu'on trouve des gens parler de spiritualité. La spiritualité, c'est une chose fondamentale. Fondamentale. C'est-à-dire, l'imam al-Ghazali, rahmallah, à son époque, pourquoi il a écrit son ouvrage Revivification des sciences religieuses, Ihya ulum ad-din? Est-ce que les sciences religieuses sont mortes pour les revivre? Bien sûr. Il a dit, les gens font la prière, les gens font zakat, font siyam, mais est-ce que ils font ça par crainte, par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ils le font juste parce que c'est une obligation? Ils sont vidés de spiritualité. C'est ça le grand problème des musulmans aujourd'hui, c'est qu'ils sont vidés de spiritualité. Les mosquées sont pleines, mais les cœurs sont vides. Ça, c'est un grand problème. Où sont ceux qui pleurent jour et nuit? Où sont ceux qui passent leur nuit à prier? Où sont ceux qui passent leur journée à faire le dhikr? Où sont ceux qui vident leur cœur de la haine de leurs frères, etc.? Nous n'assistons que des polémiques, que des critiques, que des attaques, que des insultes. Maintenant, quand quelqu'un vient poser, faire un torse directement, où est Allah, machin, il est mubtada', mushrik, takta, subhanallah al-azim. L'islam de la rahma, l'islam de l'amour, l'islam de la modestie, l'islam de la science. Tu ne peux pas appeler à l'islam si tu détestes les gens. Tu ne peux pas être une lumière si tu es rempli de haine, si tu es rempli d'obscurité. Je demande à ces gens-là d'adoucir le cœur. Même mon frère, si tu vois que tu es vraiment, vraiment dans le haq, tu dois être humble, modeste. Appelle au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala avec sagesse. Qul ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Allah azza wa jalla parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam de parler avec les kuffars. Il parle même à Sidna Moussa et Sidna Haroun de parler avec Pharaon avec douceur. Qul lahu qawlan layyina, parlez-lui à Pharaon, le grand tyran, parlez-lui avec douceur. Nous, entre nous, musulmans, subhanallah, on ne parle pas avec douceur. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est l'imam al-Tahawi rahmallah. Il dit wa huwa kalamullah ta'ala, il parle du Coran Karim, wa huwa kalamullah ta'ala la yusawihi shay'un min kalam al-makhluqin, rien ne lui ressemble des paroles des humains. Alors comment ose-t-on dire que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Sidna Moussa, c'est une parole créée? Il faut faire la tawba, il faut que ces gens là qui disent ça reviennent à la raison, reviennent dans la croyance sunnite. Donc l'imam Ahmed a été torturé à mort pour dire que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est éternelle. Donc l'imam Tahawi dit, mais la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala la yusawihi shay'un min kalam al-makhluqin. Allah azza wa jalla nous a défié pour le Coran al-Karim de nous ramener ne serait-ce 10 versets, ne serait-ce une sourate, ne serait-ce un seul verset. Jamais les humains, même à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tous les spécialistes, ils ont ramené deux grands spécialistes de la littérature, du shi'r, de la poésie arabe, pour entendre est-ce que cette parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a rendus fous, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec le Coran al-Karim, car c'était des gens qui étaient des gens du verbe, hein, c'est pas des gens de la technologie, de la science, etc. Les Qurayshites, c'était des gens du verbe, mais quand ils entendent le Coran al-Karim, ça y est, ils sont abasourdis, ils sont chaos, ils sont anéantis, car ils remarquent que le Coran Karim il a une telle force de linguistique, il ramène des informations de l'histoire, il ramène de la jurisprudence, il ramène de l'unicité, du tawhid, des informations du monde de l'au-delà, il ramène même des informations, des choses qui vont se passer. Tout cela, subhanallah, le Coran Karim avec une cohérence du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas un début, il y a un verset qui est plus fort que l'autre. Non, une cohérence avec un rime. C'est-à-dire, quand on lit Surat Sad ou bien Surat Qaf ou bien le Manakra Ba'da Sur, subhanallah, on remarque cette force de langue arabe, cette force de la littérature. Incroyable que le Coran Karim, même les Qurayshites ont reconnu inna alayhi la talawa wa innahu la ya'lu wa la yu'la alayhi. Les Qurayshites ont reconnu, ils viennent entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand ils récitent le Coran Karim la nuit. Les kuffars, ils mettent les kefés pour ne pas se connaître entre eux, ils entourent la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils entendent ce Coran tellement il les attire, tellement ils remarquent qu'il est très très fort. Ils entendent la parole d'Allah azza wa jalla, ils se disent mais pourquoi on est venu, ils se disent on va faire un pacte de ne plus revenir, mais demain tous ils reviennent pour entendre cette parole d'Allah Azza wa Jal qui est au-dessus de la parole de l'humain. Ils ont toute l'humanité, les kuffars, depuis la première révélation du premier verset jusqu'à aujourd'hui, passent au fil, au microscope électronique des grands spécialistes de la langue arabe de toutes les disciplines pour trouver une contradiction, pour trouver un défaut dans la langue arabe. Ou bien des informations que le Coran Karim a ramené, jamais. Au contraire, c'est le Coran qui lance un défi à toutes les générations, à toutes les communautés, à travers l'histoire, à travers les espaces-temps, et chacun selon le domaine dont il est spécialiste. Avant, les Arabes étaient spécialistes en langue arabe, le Coran Karim leur a lancé un défi, il les a défiés sur leur terrain. Il défie aujourd'hui aussi notre monde, qui est le monde de la technologie, où le Coran Karim nous parle des découvertes scientifiques. Lisez les 1000 vérités scientifiques du Coran. Lisez ce que a écrit le spécialiste de l'Ijaz, des colloques. Chaque année sont tenus des grands spécialistes qui convertissent à l'islam quand ils découvrent des grandes théories, des grandes découvertes scientifiques. Le Coran Karim, on a parlé, l'imam Cheikh Zandani, on en a parlé beaucoup. Et vous allez dans l'ouvrage de le Coran, la Bible, le Coran et la science, on a traité. Et c'est incroyable, des détails. Coran Karim, il parle du cosmos, il parle de l'astronomie, il parle c'est-à-dire des vagues au fond de l'océan. Comment un prophète qui a vécu dans le désert va parler des vagues et au fond de l'océan, dont seulement le commando Cousteau a découvert depuis une quarantaine d'années. Coran Karim parle de l'évolution du fœtus dans le ventre de sa mère, sauf les échographies les plus évoluées qui ont découvert depuis quelques années. Coran Karim parle de l'atome, Coran Karim parle de l'oxygène, et Coran Karim parle des empreintes, Coran Karim parle comment les fécondations se font entre les plantes, des choses incroyables, incroyables. Comment ce prophète qui ne sait ni lire ni écrire va parler de toutes ces choses-là? Et à chaque fois, le Coran Karim va défier toutes les générations à travers l'histoire jusqu'à la fin des temps. كلام الله رب العالمين كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. Ça ne ressemble à rien aux paroles des humains. ثم قال رحمه الله تعالى ولا نقول بخلقه. شوف. وَلَا نَقُولُ بِخَلْقِهِ. On ne dit pas qu'il est créé. Comment ose-t-on aujourd'hui de dire que la parole d'Allah Azza wa Jalla Sidna Moussa, elle est créée? Et vous dites suivre l'imam Tahawi? Faut arrêter. Vous ne suivez pas l'imam Tahawi. Ceux qui suivent l'imam Tahawi, ce sont les ulama des quatre écoles. Al-Shafi'iyya, wal-Hanafiyya, wal-Hanabilatu, wal-Malikiyya. En dehors de ces gens-là, il faut arrêter le mensonge, il faut revenir à la raison. Il faut suivre ce que l'imam Tahawi te dit. وَلَا نَقُولُ بِخَلْقِهِ. On ne dit pas qu'il est créé. Et toi, tu dis, non, la parole d'Allah, Azza wa Jalla, Sidna Moussa, elle est créée. تَقُوا اللَّهِ. ثُمَّ يَقُولُ الشَّيْخُ وَرَحْمَ اللَّهِ وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ أكبر. وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ. Et on ne sort pas du groupe des musulmans. جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ. الله أكبر. Et on ne sort pas c'est-à-dire du groupe. يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ. شوف. يَا سُبْحَانَ اللَّهِ. سيدنا أبو مسعود سيدنا أبو مسعود يقول لا يجمع الله أمة محمد سيدنا عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه لا يجمع الله أمة محمد على ضلالة. سيدنا أبو مسعود يقول لا صديق لا أمة سيدنا لا يجمع الله عز وجل regroupe pas la umma de سيدنا رسول الله sur un égarement. Cette parole de سيدنا ابن مسعود elle est rapportée par l'imam al-Hakim tome 1 page 177 dans kitab bab من شد في شد في النار. Et aussi, elle est rapportée par l'imam Ibn Hajar al-Asqalani dans l'Amali, et il a rendu cette parole authentique pour dire à ceux qui disent c'est qui la majorité des musulmans. Ne sont-ils pas les quatre écoles depuis des siècles, aujourd'hui, historiquement et géographiquement, du Maroc jusqu'en Inde, de la Turquie jusqu'au fond du Mali ou du Sénégal, tous c'est des Ash'arites. Alors la poignée de salafites, elle est où la majorité dont parle Sina Abdullah ibn Mas'ud, le hadith qui est authentifié par Ibn Hajar. On dit non, le haqq n'est pas avec la majorité. Si. Là, il est avec la majorité. Mais vous ont donné beaucoup d'arguments pour vous prouver que le haqq, il est avec la majorité des musulmans. L'imam Sayyidina Ibn Omar, radiallahu anhuma, dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma communauté ne se mettra jamais d'accord sur un égarement. Fa'alaykum bil jama'a. Attachez-vous au groupe. فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَعَةِ. Qu'est-ce la main d'Allah, la rahman d'Allah, le pouvoir d'Allah, il est avec la jama'a, il est avec le groupe. قال l'imam, الحافظ الهيثمي, رحمه الله, il a cité cela, il a rapporté dans son ouvrage مجمع الزوائد, tome 5, page 218, il est rapporté par l'imam Tabarani. L'imam Tabarani dans son tome 12, page 447, il le rapporte par deux chaînes de transmission. Et toutes les deux chaînes de transmission elles sont authentiques. Alors, l'imam Ibn al-Hajj, rahmallahu ta'ala, fait taqrir wa tahbir, il rapporte aussi cela. On a aussi une parole rapportée par Inna Allah la yajma'u ummati, ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ala dalala. Cette parole aussi, on va la trouver rapportée par chez l'imam al-Lalka'i dans l'ouvrage de Sunnah, et rapportée aussi chez l'imam Abu Nu'aym dans la Hilya. Où il dit Inna Allah la yajma'u hadhihi al-umma 'ala dalalah. Allah Azza wa Jalla ne regroupe pas cette umma sur un égarement. Wa inna yadallahi ma'a al-jama'a fattabi'u as-sawad al-a'zam. Attachez-vous au sawad al-a'zam, c'est-à-dire la majorité absolue des musulmans. Fa man shadda shadda fi an-nar, car celui qui se marginalise, celui qui fait un petit groupe, il va se marginaliser en enfer. On a aussi une parole chez Ibn Majah, inna ummati la tajtami'u 'ala dhalal. Chez Ibn Majah, il est rapporté inna ummati, ma communauté ne se regroupe pas sur un égarement, etc. Donc vous avez plein de paroles des ulama, des huffaz, qui parle que, subhanallah, que la main d'Allah elle est avec le groupe et Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal ne rassemble jamais la communauté musulmane sur un égarement. Alors comment dire que cette majorité absolue des Ash'arites et Maturidites qui regroupe les quatre écoles, ils sont dans l'égarement? Comment peut-on dire que, ou bien les soufis, ou bien les chafirites, ou bien les hanafites, ou bien la totalité des hanbalites, ils sont dans l'égarement quand ils font tawassul, ou bien quand ils sont soufis, ou bien quand ils sont ash'arites, a'oudou billah. Si l'imam al-Nawawi, ou l'imam al-Subki, ou l'Qadi Ayyaf, ou l'imam al-Qurtubi, ou l'imam al-Shabrakhiti, tous les milliers de savants chafirites, les milliers de malikites, ceux qui font tawassul, tous ces hufadla, toutes les torak soufis, tous ces gens-là, ils sont dans l'égarement. Il n'y a qu'une poignée de salafis depuis 70 ans qui sont installés en Arabie Saoudite, qui sont dans le droit chemin. Et on leur rajoute, c'est Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Abd Wahhab, etc. Tous, à part ces gens-là, toute la Ummah Muhammadiyya, elle est dans l'égarement. Salahuddin Ayyubi, il est dans l'égarement. Imam Suyuti, il est dans l'égarement. Hujjat al-Islam Abu Hamid al-Ghazali, il est dans l'égarement. A'oud billah, min shaitanir rajim. Il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala, revenir à la raison, revenir à ce que a dit Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ce que a appris les compagnons de Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment ils ont compris le texte, le texte, on ne peut pas le comprendre autrement que ce qu'il a été compris par les grands mufassirin, comme il a été compris par l'imam al-Nawawi, l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, l'imam al-Abi al-Azhari. Toutes ces grandes institutions, l'Azhar Sharif, le Qarawiyyin, le Zaytouna, l'Algérie avec ses grandes universités, le Mali, les Zawaya, l'école de Bawand, l'école indienne, l'école pakistanaise, l'école turque, l'école sénégalaise, Tombouctou. Toute cette histoire, elle est dans le haqq. C'est ce qui nous a préservé notre sharia à travers tous ces siècles. Je vais me limiter à cela, inshallah ta'ala. J'invite mes frères et sœurs à entendre ces cours-là et essayer de les comprendre et de venir sur Aslama, d'essayer de poser les questions importantes et d'être, inshallah ta'ala, très sage et modeste et humble, car cette science-là nécessite la patience et la modestie. Subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc j'ouvre inshallah une parenthèse, on va enlever les points rouges pour ouvrir une parenthèse. Comme aujourd'hui on a trop tardé, on va pas trop tarder sur les réponses. Si vous avez des questions qui concernent le cours, bien sûr, je suis à votre disposition. Bien sûr, je prétends pas répondre à toutes les questions. S'il y a des questions dont je suis incapable de répondre, bien sûr, je demanderai à mes chouyours et je vous demande pardon. فإن أصبت فمن الله ومن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان فتفضلوا on va enlever inshallah les points rouges et on vous permettra de bismillah. En dehors du cours, vous venez sur Aslama et posez-les. Là, la question du frère Ibn al-Qasim concerne les attributs, le fait qu'il ne soit ni de l'essence d'Allah ni loin de son essence. Pouvez-vous nous détailler cette question? Jazakallah khair. Alors, cette question, elle est fondamentale dans la croyance sunnite, parce que les sunnites croient que Allah Azza wa Jal, il a une essence, bien sûr. Parce que si on dit que les attributs d'Allah, c'est eux l'essence d'Allah, donc Allah Azza wa Jal n'a pas d'essence, il n'a que des attributs. D'accord? Or, les attributs existent, ce sont éternels, et ils sont reliés à l'essence d'Allah Azza wa Jal. On n'a pas de détails sur l'essence d'Allah Azza wa Jal, on sait que Allah Azza wa Jal, il a une essence qui n'a aucune relation, aucune ressemblance avec celle des créatures, mais les attributs, ils sont ni l'essence, ni autre chose en dehors de l'essence. C'est-à-dire, ils sont reliés à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième question, assalamu alaikum. Allah ne ressemble à rien à nous, seulement physiquement ou sur tous les points de vue. Certains de ses attributs rappellent des qualités qu'être humain pourrait avoir en moindre importance. Comment le comprendre? Non, là vous soulevez mon frère Abricot A. Vous saurez la question des versets ambigus. Ce sont des versets où Allah Azza wa Jalla parle de main, parle d'œil, parle d'établissement, etc. Cela s'appelle les versets ambigus ou bien équivoques. Tous les ulama sont les grands savants, les sunnites, sont unanimes qu'il faut les prendre au sens figuré, pas au sens littéral. Et que Allah Azza wa Jalla les a utilisés, car les Arabes de l'époque utilisaient cela. C'est leur langage pour le rapprocher la compréhension. Quand Allah Azza wa Jal dit la main d'Allah est au-dessus de leur main, c'est pas parce que Allah il a une main. A'oudhu billah, c'est que pour dire que la puissance d'Allah est au-dessus de leur puissance. Le pouvoir d'Allah est au-dessus de leur pouvoir. D'accord? Contrairement à ce que les uns croient qu'Allah Azzawajal, il a une main et elle a cinq doigts. C'est quoi ça? C'est pas notre croyance. Alors, et celui qui veut des détails, il vient sur Aslama, de rubrique réfutation ou croyance. Vous allez trouver tous les détails en ce qui concerne les versets en bic. Le frère Didou Al-Qassam, il dit Assalamu alaikum. Qu'en est-il des nombreuses paroles? On voit que certains grands savants disent qu'Allah est au-dessus de son trône avec son essence, et est-ce que ce sont des falsifications? Non, là, au-dessus de son trône, au-dessus veut dire avec sa puissance, akhi. C'est pas avec son essence. Et l'ouvrage de l'imam Zahabi, Kitab al-Ulou, d'ailleurs l'imam Zahabi est revenu sur cet ouvrage-là. Deuxièmement, toutes les chaînes qu'on trouve chez l'imam Zahabi, elles ne sont pas reliées. Il n'y a pas de texte qui prouve qu'Allah Azzawajal est au-dessus de son trône avec son essence. Ça, il est au-dessus de nous, bien sûr, mais avec sa puissance, avec sa science. D'accord ? Il faut le Coran al-Karim, tous les versets traitant de cette question, vous allez la voir, que tous les ulama du tafsir parlent qu'il est au-dessus de nous avec sa science et sa puissance. Il n'y a aucun savant du tafsir qui dit qu'il est au-dessus de nous avec son essence. Sinon, il y aura un changement qui concerne Allah Azzawajal. C'est comme si Allah Azzawajal, avant de créer les créatures, il n'était pas au-dessus du ciel, ni du trône. Ensuite, il a créé le trône et est devenu au-dessus de lui. Donc ça, c'est un changement. Et le changement, c'est un signe de faiblesse. Allah, il est comme il est avant de créer la créature, et pendant leur création, et après leur anéantissement aussi. Donc le changement est sur la créature, mais pas sur le créateur. Le frère Mohammed dit, par exemple, quand on dit que Allah est généreux, ce n'est pas la même générosité que celle des êtres humains. Exactement. C'est-à-dire Allah Azzawajal Rahim. N'oublions pas qu'Allah Azzawajal il a donné, on va dire, il a permis à l'être humain de gérer. Allah Azzawajal il a fait de l'être humain un khalifa, c'est-à-dire un lieutenant, c'est-à-dire il tient les lieux. Il va gérer les choses matérielles dans cette vie. C'est-à-dire tu peux faire, c'est-à-dire gérer l'argent, les biens, tout en reconnaissant que le mal, malullah, c'est-à-dire tu le gères, mais Allah Azzawajal t'a imposé le zakat, etc. C'est-à-dire que l'humain peut, c'est-à-dire tu es le gestionnaire de sur terre, hein. Allah Azzawajal a rendu l'être humain, il est le gestionnaire de sur terre. Par contre, il est autorisé à toucher à tout, mais il ne peut pas toucher à des choses que dont seul Allah Azzawajal peut faire. Par exemple, tu ne peux pas donner la rahma, la clémence à quelqu'un. C'est pas à toi. Tu ne peux pas donner la guidance. Tu ne guideras pas. Guide. Tu ne peux pas donner la foi. Tu ne peux pas donner l'iman. Donc c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, Rahman et Rahim. C'est-à-dire Rahim, tu peux trouver un être humain Rahim. On peut dire telle personne, il est Rahim. Mais on ne peut pas dire telle personne, il est Rahman. Car Rahman, c'est un des noms d'Allah Azzawajal qui est spécifié aux grands bienfaits, tels que la guidance, la foi, la croyance. Ça, c'est des grands bienfaits, seuls Allah Azzawajal les donne. Par contre, les choses matérielles, les petits bienfaits qui concernent le nom d'Allah Rahim, ça, l'être humain, il peut donner. Tu peux donner de l'argent à quelqu'un, tu peux priver quelqu'un de, etc., etc. Alors, excusez-moi, monsieur Abricot dit, excusez-moi, je voulais parler, par exemple, être Karim et le Karim. Voilà, c'est ce que je crois que j'ai répondu à votre question, mon frère Abricot. Non, je suis à votre écoute, inshallah ta'ala, si vous avez d'autres questions. Ça. Annie, le frère qui essaye de m'envoyer des liens, machin, etc., on n'est pas là pour polémiquer. Celui qui a quelque chose, il vient. Salam alaikum, c'est établi au-dessus de son trône, c'est mentionné dans le Coran. Dans le Coran, c'est pas mentionné, mon frère ou ma soeur, Firqatul Ghuraba, c'est pas mentionné, c'est établi. C'est mentionné istawa. Et le mot istawa n'a rien à voir avec le mot établi. Donc c'est juste une traduction qui est faite pour vous rapprocher, vous les francophones, qu'il s'agit de istiwa. Le mot istawa, il n'existe pas sa traduction n'existe pas en français. Quand on dit c'est établi, mais c'est établi. Hein. Le Coran, il dit istawa. Il va voir les savants du tafsir ce qu'ils ont dit pour istawa. Ils ont dit ce que Allah Azzawajal domine le trône. C'est pas qu'il est assis au-dessus. Parce que le mot istawa, il a plusieurs sens. Or, le mot établi, il n'a qu'un seul sens. Donc, il faut faire attention. Ça veut dire que la domination. Le mot établi, ça veut rien dire. Juste pour rapprocher le sens, hein, on ne peut pas laisser l'arabe, les francophones, c'est vrai qu'il n'y a pas que les francophones. Wa fi kabarakallah. Mais venez sur Aslama, on a détaillé toutes ces questions-là. Dommage que vous n'étiez pas là. Référez-vous au cours audio de la semaine dernière sur, dans le site Aslama. Vous trouverez le cours enregistré où j'ai traité en détail cette question de l'établissement. Non. Vous allez sur Aslama, vous allez trouver, mon frère ou ma soeur, le cours. On va essayer de. Le Jouaini va essayer de vous donner le lien, inshallah ta'ala. Donc, on va clôturer, inshallah, le cours d'aujourd'hui. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبيل المهتدى اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامة من على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام ويوجه كريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته